Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui a attiré notre attention, c'est l'entraîneur de l'OGC Nice, Franck Haise, qui a, après la nouvelle défaite des Aiglons en Ligue Europa, a proposé à ses dirigeants d'être le fusible ou l'électrochoc. En Angleterre, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, est sur le grill alors que les Reds sont en crise de résultats. En Italie, il y a quelques semaines, Antonio Conte, le coach de Naples, a pris quelques jours pour souffler alors que son équipe était en difficulté. Carlo Ancelotti a commenté ce choix. Il a dit, il a peut-être ouvert une voie. L'entraîneur subit de grandes pressions. Notre travail est très compliqué. On ne déconnecte jamais. On entend rarement ce genre de choses. Est-ce qu'on s'intéresse finalement suffisamment à vous, les entraîneurs et les managers, et à ce que vous subissez parfois? Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Le poids des responsabilités de l'entraîneur. Tiens, on parlait de foot, on va commencer par entraîneur de foot. Pascal Duprat, tiens, par exemple, quand on entend De Zerbi il y a quelques jours, j'ai pas dormi pendant deux jours en voyant que j'avais un blessé. Tu l'entends, ce genre de choses?
Je trouve que De Zerbi, il a de la chance. C'est que deux jours, sans dormir. Je peux te dire, moi, ça m'arrive souvent de dormir peu, mais sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce que bon, encore une fois, c'est un magnifique métier et tous mes copains vont abonder dans mon sens. C'est un métier magnifique, c'est un métier riche en tout point. Tu prends des responsabilités. Pour ceux qui aiment prendre des responsabilités, eh bien, il faut que t'en prennes, et en plus t'en prends devant tout le monde, puisque les entraîneurs de sport de haut niveau, eh bien, on est jugé bien sûr par les joueurs, on est jugé par nos dirigeants, on est jugé quelquefois par nos actionnaires, si ce ne sont pas les dirigeants, parce que quand il y a des présidents délégués, c'est pas leur pognon, mais ils vous jugent quand même. Vous êtes jugé par les journalistes, et vous êtes jugé par vos collaborateurs aussi, ça arrive. Et puis, in fine, vous êtes jugé par les supporters. Donc la Vox Populi, elle peut tout dire de vous.
Et ça, c'est dur, ça. Il ne faut pas le sous-estimer.
Dieu sait si c'est... Oui, c'est difficile. On doit bien l'admettre. Et surtout, ce qu'on doit ne jamais faire, c'est de montrer nos faiblesses à tout ce beau monde. Il ne faut jamais montrer que tu es en difficulté, parce que tout ce qui se dit sur toi, eh bien, ça te touche malgré tout. Ça te touche et ça touche aussi ceux qui sont les membres de ta famille, et notamment tes gamins. Donc ce métier est difficile à partir du moment, comme le disent tous ces entraîneurs prestigieux que vous avez interrogés, à partir du moment où tu débutes une saison, ben t'es dans une espèce de machine à laver infernale et tu t'en sors pas. Et bien souvent, on pense que t'es tellement costaud, qu'en fait tu vas te débrouiller tout seul. Je prends l'exemple des psys. De plus en plus, des psys viennent au football pour au chevet des footballeurs qui en ont besoin. Mais jamais on vous dit, et le staff on le ferait pas, et le coach il verrait pas un psy aussi, si tu le fais pas de ta propre initiative, ne compte pas sur les dirigeants pour te le proposer. C'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, c'est ingrat, le fusible. Bon, là, Franck Haise, il fait à mon avis une erreur, à moins qu'il ait envie de s'en aller, hein. Mais à partir du moment où toi, tu proposes à tes dirigeants, tiens, vous auriez peut-être l'idée d'actionner le fusible que je représente, ça veut dire que t'es pas trop loin de la sortie, en général, hein. C'est-à-dire qu'ils y ont pensé avant toi. Donc le premier fusible, et puis surtout,
ouais, mais quand c'est terminé, je démissionnerai pas, là.
Non, oui, c'est vrai. Mais quand c'est fini pour toi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est fini pour toi. Il n'y a plus personne qui te calcule, quoi, hein, en fait. Donc voilà, un peu l'ingratitude
du métier. Comment ça se fait, oui, justement, quand t'es viré d'un club, ou quand on te dit, bon, ben voilà, Pascal, c'est fini avec nous. Comment se passent les heures qui suivent? Tu vas dans ton bureau, tu fais tes petites affaires, tu t'en vas, tu fais une fête de départ, tu fais un pot. Comment ça se gère, ces moments-là?
C'est selon. Je suis parti de l'ETG, je me suis fait virer. J'ai été viré deux fois à l'ETG à Caen. Après, c'est chaque fois parce qu'on avait décidé, j'avais décidé de m'arrêter. Je pourrais faire la parenthèse de Toulouse, par exemple. Mais pour ce qui est de l'ETG, j'ai été viré par mes amis. Donc ça fait mal, et surtout le club que j'avais construit avec d'autres, hein, on fait jamais rien tout seul, mais j'avais le sentiment quand même que d'une forte trahison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, pour pas me payer, et d'ailleurs ils ont réussi, puisque je disposais encore de 7 ans de contrat, hein, j'avais le privilège d'être là depuis longtemps, 3 ans entraîneur et 4 ans de directeur sportif quand j'arrêtais d'entraîner. Eh bien, ils m'ont mis une faute grave. Apparemment, j'avais falsifié une fiche de poste. Voilà, un contrat homologué à la Ligue professionnelle de football et Pascal Duprat complètement débile, il va faire une fiche de poste pour je sais pas pourquoi, enfin toujours est-il qu'ils ont gagné du temps, et malheureusement le club a déposé le bilan, donc on m'aura jamais payé. Et la deuxième fois c'est à Caen. Eh bien, à Caen il y a un manager qui arrive, le club est racheté et il attend 6 mois pour me mettre des bâtons dans les roues, et à un moment donné on me vire, on me paye, et après t'entends plus jamais personne. J'ai même pas dit au revoir aux joueurs à Caen.
Ah ouais,
tellement j'étais désespéré.
Ouais.
À l'OTG oui, mais à Caen non.
C'est le vide en fait. C'est un peu le vide.
Le vide, du jour au lendemain, le vide. Non, voilà. Le téléphone qui sonne tout le temps, qui sonne plus jamais par exemple.
Le poids des responsabilités de l'entraîneur, c'est le sujet du vestiaire des GG. Marc, est-ce qu'on sous-estime, que ce soit le journaliste ou même le grand public, la difficulté, on entend Pascal, hein, il y a des mots forts, hein, aussi peut-être sur l'accompagnement qu'il faudrait avoir, mais est-ce qu'on sous-estime la difficulté que vous avez, vous, les managers, à encaisser les coups notamment.
Le foot, c'est plus exacerbé que ça ne l'est aujourd'hui dans le cyclisme. Même si on va vers quelque chose de plus intense en ce qui concerne le vélo. Après, la pression quelque part qu'il y a sur la vie des sportifs d'une équipe, que ce soit les coureurs ou l'encadrement, on l'a choisi, on l'a voulu. Quelque part, on a besoin de cette adrénaline qui vient et qui monte avec la compétition et la course. Donc, il y a avantage inconvénient dans ces situations. On vient chercher quelque part cette excitation, cette mise sous tension, sous pression. Moi, ça fait 45 ans que je vis avec le nœud à l'estomac quand j'ai mon dossard, quand j'étais coureur, ou quand je suis encore avec mon dossard derrière mon équipe. Donc, ça fait partie des choses qui nous nourrissent aussi quelque part.
C'est en toi.
Mais tu dis que t'es intouchable. Aujourd'hui, ça fait 28 ans à la tête de ton équipe. Est-ce que par moment ça a été chaud?
Mais on n'est pas dans le même schéma.
Est-ce qu'on t'a mis la pression?
Non, la pression, c'est est-ce qu'on est capable de trouver, de continuer à avoir les financements et la confiance des partenaires en l'équipe. C'est ça qui compte. Et la confiance des coureurs qui sont avec nous.
Mais en fait, toi, t'es vraiment dans la distinction entre, t'es dans le rôle de manager.
C'est un peu différent de l'entraîneur, c'est un peu différent.
Mais il y a des moments où ça use, Marc. Franchement.
Mais ça, forcément, nerveusement, ça peut user. Oui. Quand
moi, tu ne le montres pas devant les caméras.
Pas devant les caméras, mais
quand tu rates un tour,
dans l'après 98, on a quand même connu des années très difficiles, notamment pour le cyclisme français. On nous taxait de ne pas savoir s'entraîner. On était des branquignoles. On était les équipes de merde, français de merde.
Buvait des bières aussi.
Et donc, quand t'as ça tous les jours quelque part sous-jacent dans les médias et un peu parfois dans le public, quand tu te retrouves à 1 heure du départ dans ton bus ou ton camping-car pour faire un briefing, que la veille tes deux voitures de directeur sportif, la une et la deux, sont derrière le groupe Eto, et que même le groupe Eto est limite d'être hors délai, quand tu te retrouves face à tes coureurs et ton encadrement le lendemain matin pour faire le briefing, t'as intérêt d'avoir de l'imagination. T'as intérêt d'avoir de l'imagination, t'as intérêt de garder quelque chose de positif en toi et d'être convaincant. Et moi, mon énergie dans ces moments-là, elle était totalement consacrée à ça. Moi, j'essayais de me raccrocher à la moindre branche, à la moindre brindille d'herbe pour donner de l'envie et un peu d'espoir à mes coureurs. Et ça, c'était usant, c'était difficile. Et il fallait garder le cap. Il fallait emmener tout le monde. Le but du jeu dans tout ça, c'est de réussir à embarquer son équipe avec soi vers quelque chose qui sera sans doute difficile à atteindre. Et ça, ça consomme de l'énergie, oui.
Et je peux vous dire qu'il s'y entend, Marc, pour même quand tout va mal, que son équipe est à la rue et c'est arrivé sur plusieurs Tours de France, la FDJ organise tous les étés pendant le Tour de France un dîner en invitant les partenaires, les journalistes, et Marc prend la parole au cours de ce dîner. Et évidemment, certains y vont quand tout va mal en disant qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire cette fois-ci, comment, sur quelle corde il va pouvoir jouer. Et je peux vous dire que à chaque fois, il arrive à prendre son public, parce que tu as un don d'orateur, et quand tu t'adresses aux gens, on arrive à te suivre. Alors que franchement,
Marc, dans son activité, il l'a dit, il doit convaincre les partenaires de suivre, poursuivre l'aventure. et convaincre aussi des coureurs de venir dans son équipe. Tu as son rôle aussi de recruteur, de vendre son équipe. Pourquoi si tu viens chez moi, comment...
le coureur ne, enfin moi je, de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, souvent l'argent est une chose. Là, aujourd'hui, l'argent prend beaucoup plus de place que par le passé.
Bien sûr.
Mais par le passé, il y a 10 ans ou 15 ans,
t'avais
ou 20 ans,
embarqué
t'étais davantage dans l'humain, et t'étais davantage dans
l'histoire
ensemble.
Ouais.
Moi, j'ai en exemple, j'ai des tas de coureurs qui ont fait toute leur carrière avec moi et d'autres. Je me souviens, t'as connu McGee chez nous. McGee, moi, j'avais été le chercher à l'aéroport. J'avais une belle et longue histoire avec lui. Et à un moment, on était en difficulté. On savait pas si la Française des Jeux allait continuer. Et on était début septembre et le nouveau président de la Française des Jeux hésitait à renouveler le contrat. Et puis, un matin, le président m'appelle et me dit, Marc, je vous fais confiance. On repart pour un an et on verra. Donc j'avais libéré quelque part tous mes coureurs à ce moment, et j'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Brad McGee. Il était déjà quasi embarqué chez Rabobank. Il avait fait son chemin, et il cherchait du boulot, il avait quasiment trouvé son chemin. Et McGee m'a dit, Marc, je peux pas te faire ça, je reste. On est reparti pour un an d'avant. Voilà, c'était ça à l'époque. Le but du jeu... Même quand c'est difficile, il faut garder la foi et dans ce qu'on te donne et dans ce qu'on propose aux coureurs.
C'est la condition première à ta crédibilité, le fait que tu gardes la foi, que tu sois positif en
permanence. Que tu doutes. Des erreurs, on en fait tous. Des lacunes, on en a tous. Mais il y a un moment, il faut qu'on mette les tripes sur la table. Il faut qu'on mette le cœur à l'ouvrage. Voilà, moi, quand je pars en course sur certaines courses avec mes gars, quand il y a le championnat de France, moi, je fais le briefing. Avant de rentrer dans le briefing, je sais jamais ce que je vais leur dire. Jamais. Mais quand je les prends les yeux dans les yeux, je me transforme. Et j'arrive à les transformer. Et je sais qu'on peut faire des grandes courses au championnat. Parce qu'on va chercher, au fond de nous, au dernier bout des tripes qu'on a, on va chercher le truc qui va nous réunir sur le maillot, qui va nous permettre d'aller chercher un maillot champion de France. C'est très symbolique, le maillot champion de France. Mais pour moi, le championnat de France, c'est l'endroit où on véhicule ce qu'on est, ce qui est l'âme de l'équipe. Et si on arrive à transmettre ça, ah putain, on peut renverser des montagnes.
Les gars, je crois qu'on va être champion de France. Ça, je suis sûr.
Ouais, c'est ça.
Non mais ça, c'est hyper intéressant. On est dans le poids des responsabilités de l'entraîneur, et quand on parle de ça, Marc, immédiatement, en fait, tu te réactives tout seul. Tu te réactives. Ça montre à quel point c'est important.
Tu te mets en situation.
Non mais ça montre aussi à quel point vous êtes dépassionnés, et justement ce que ça implique comme implication émotionnelle pour vous tous quand on rentre là-dedans. Julien Beneteau, t'as été capitaine de l'équipe de France Fed Cup. Donc, tu as été joueur avant, ensuite tu te retrouves à devoir prendre des responsabilités. C'est dur, parfois, après coup, parfois, les choses qui n'ont pas marché.
Après coup, oui, bien sûr. On refait toujours l'histoire quand ça ne marche pas. C'est dur, c'est le job. Marc l'a dit, Pascal l'a dit, on aime ça. On va se nourrir de ça, de cette pression, de cette excitation, de cette adrénaline, d'essayer de transmettre quelque chose, d'essayer d'embarquer, d'essayer de convaincre. Et
des fois, ça marche pas.
Et des fois, ça marche pas.
Ça peut pas
marcher,
oui.
Et parce qu'on a le droit de faire des erreurs, parce qu'on prend des décisions à un instant où on a des données, entre guillemets, des ressentis qui font qu'on va prendre cette décision, et que quand ça marche pas, après coup, on se refait le film. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça?
Tu te refais encore
mais
le film.
Mais tu te fais dans ton fin intérieur, pas devant d'autres personnes.
Non.
Pas devant les médias, pas devant des partenaires. Voilà, c'est quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel.
Pas devant les médias.
Tu fais le constat.
Ouais, ou même 2 semaines, 3 semaines. Ouais, même plus tard. Moi, aujourd'hui.
Mais c'est important, ça, pour la construction du manager, de faire un feedback et de reconnaître, d'avoir l'honnêteté. Mais ça, c'est on se parle à soi. D'avoir l'honnêteté de chercher les erreurs que j'ai commises ou que j'aurais pu commettre pour
comment dire. Pourquoi on a pris telle décision? décision. Pourquoi, cette solitude,
si je prends l'exemple de Saint-Etienne, j'ai repris après Claude Puel à Saint-Etienne, il avait marqué 12 points en 18 matchs. Tout le monde, y compris mon agent, me disait va pas, c'est une pétaudière, va pas là, Pascal. Mais je suis un passionné de foot. Entraîner Saint-Etienne, ouais, pour moi, le petit entraîneur, incroyable, si vous voulez. Je marque 20 points en 20 matchs. J'arrive, enfin, ce sont les joueurs qui parviennent, je fais la rectification, ce sont toujours les joueurs qui accomplissent les performances. Ouais, ok, ce ne sont pas les coachs. Donc, les joueurs parviennent à aller jusqu'au barrage. Et on, vous savez, j'ai fait une dépression nerveuse pendant un an. Ça s'est pas su. Pendant un an, j'étais mal parce que j'ai échoué. J'ai échoué. Je considère que je prends ma part de responsabilité. J'ai cherché pourquoi. Au fond de moi, je sais pourquoi nous n'avons pas réussi à battre Auxerre en barrage. C'était au pénalty. Hein. Mmh. On termine 5-4. Hein. Je ne mets pas le public parce que les supporters stéphanois, ils sont géniaux. Mais moi, en 10 matchs à domicile, 6 ou 7 fois, les tribunes, elles étaient soit clairsemées ou soit complètement vides parce qu'ils étaient suspendus. Donc, ils avaient aussi leur part de responsabilité. Barrage retour à Auxerre, on tire les pénaltys, il n'y a personne derrière. Hein, parce que la tribune est suspendue.
Non, mais c'est intéressant, ça, sur ce que ça
laisse. Mais il n'y a personne qui l'a dit, ça. Non. Par contre, Pascal Duprat a la responsabilité. Personne n'a dit. Mais attention, j'adore Claude Puel. Il est bien meilleur entraîneur que moi.
Mais ce qui est intéressant aussi, dans les mots que tu utilises, Pascal, c'est que quand ça gagne, tu dis c'est grâce aux joueurs, tu veux surtout pas te mettre en avant.
Toujours.
Ça perd, c'est la faute de l'entraîneur.
Toujours. Oh, moi, je suis parti de Saint-Etienne où les gens commençaient à m'apprécier beaucoup. Ils pensaient tous que nous allions, que les joueurs allaient se maintenir. Je suis parti de Saint-Etienne comme un voleur à aller louer une voiture utilitaire pour, vider mes meubles, ok, mais d'y aller comme un voleur, vous m'entendez?
Non, mais ça laisse des traces, en fait. C'est ça, c'est pas neutre. Non, mais c'est pas neutre, ça laisse des traces. C'est vrai que c'est presque un peu dommage qu'on ne le sache pas, ça, souvent, sur le moment. Ça permettrait de dimensionner l'importance, en fait, de ce que vous subissez.
Parce qu'on ne va pas chercher les entraîneurs qui viennent d'être virés. D'abord, parce qu'ils veulent pas parler, souvent.
Et qu'ils peuvent pas. Et qu'ils peuvent pas. Parce que. Non, mais une solitude, il y a, oui, on essaye de réfléchir pourquoi, comment, etc. Et c'est là où le rôle de l'entourage est hyper important. D'assumer, moi, ce que je disais, par rapport à mes joueuses et par rapport à la presse ou par rapport aux dirigeants de la fédération, moi, pour moi, j'estimais que je devais être le tampon, entre guillemets, et protéger les joueuses.
Voilà.
Et protéger les joueuses. Voilà. Donc, c'était très clair. J'étais très honnête là-dessus. Je leur annonçais. Et donc, exactement, je pouvais vraiment les protéger. Après, en interne, on se disait les choses. Et ensuite, moi, je considérais que c'était mon rôle, que c'était comme ça. Peut-être qu'un autre capitaine a pu faire différemment ou fera différemment. Voilà. Mais oui, on est pris. Moi, aujourd'hui encore, de temps en temps, je me refais quelques rencontres, les dernières ou celles de l'année d'avant, quand on perd contre la Grande-Bretagne. Et pourquoi à tel moment on n'a pas réussi? Pourquoi elle n'a pas fait tel point? Et comment ça se fait que Raducanu allait jouer comme ça ce week-end? Et si j'avais gardé telle composition d'équipe, est-ce qu'il y aurait eu un résultat différent?
Ça te hante quand même encore. Il y a des trucs qui te hantent.
Bien sûr, on a envie.
Alors ça veut dire que en toi, Julien, t'es un vrai manager. Ça veut dire que t'es prêt à replonger.
Ah, mais j'ai envie. Moi, j'ai envie de replonger dans n'importe quel sport.
Bah là, tu me parles comme un vrai manager.
Quand j'écoute Marc, quand j'écoute le fameux discours de Pascal pour le maintien, enfin, je veux dire, Marc, là, je suis dans le camion en face de lui. Il m'entraîne parce que je suis capable de monter sur un vélo et d'aller faire un col parce que la passion, le côté vrai, moi, j'ai essayé d'être comme ça. Et à un moment donné, je pense que j'ai été impactant. Et à un moment donné, je n'ai plus été impactant. Et
c'est dur à l'accepter, ça aussi.
Et pourquoi je ne l'ai plus été? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que mes discours n'étaient pas bons? Est-ce que je me trompais de cible? C'est-à-dire qu'une génération de joueuses, ça parle peut-être un peu moins que moi, ce que j'ai pu recevoir.
C'est terrible, parce qu'en fait, tu te dis presque, c'est quoi, je suis périmé aujourd'hui?
Non, pas périmé.
Non, mais dans mon discours ne passe plus avec une certaine génération.
Ou avec certaines joueuses, ou certains joueurs à un moment, à un instant T. Mais peut-être qu'avec d'autres joueurs de la même génération, ça passerait totalement. Et je serais capable de les embarquer. Ou dans un autre sport. Ou parce que il y a des moments, il y a des sensibilités où c'est naturellement on est plus impactant. Et c'est une remise en question aussi permanente. Mais j'ai fait un exercice, mais dans une formation, j'ai fait un exercice d'un atelier. J'étais le coach d'une équipe de foot. Il y avait 1-0 à la mi-temps pour nous. J'étais content de la production, mais j'étais pas content de l'engagement de mes joueurs. Et donc j'avais 10 personnes devant moi. J'avais 5 minutes pour préparer mon discours et je devais les embarquer comme si c'était mes joueurs. C'était ça mon atelier. J'étais content parce qu'à la fin, celui qui dirige l'atelier m'a dit, franchement,
pas mal.
Tu pourrais être coach de foot. Entre guillemets, je connais rien au 4-2-3-1, mais de la manière. Parce que j'ai parlé avec mes tripes, j'ai parlé avec ce que moi j'aurais aimé entendre.
Ce que disait Marc tout à l'heure.
C'est exactement, c'est vrai. Mmh. Et je savais pas ce que j'allais dire parce que j'avais pas le truc. Mais parce que je pense qu'on a une passion qu'on sait au fond de nous, et c'est pour ça aussi qu'on se refait les films quand ça marche pas ou quand ça marche, et c'est là où le rôle de l'entourage aussi est hyper important.
Le fait d'avoir été compétiteur avant de devenir coach, je pense, est capital. Parce que tu ressens les choses.
Exactement. Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vécu?
Et je voudrais qu'on termine là-dessus. On est dans le vestiaire sur le poids des responsabilités de l'entraîneur. Pascal a déjà un peu effleuré le sujet, mais là finalement on parle de choses qui sont beaucoup dans l'intime quand même. Souvent que vous ne dites pas aux caméras sur ce qui se passe dans votre tête quand c'est difficile. En fait, le plus dur c'est pour vos proches, vos compagnes, notamment qui vous voient de manière brute dans ces moments-là de remise en cause ou d'insomnie parfois.
C'est elle qui morfle en premier, non ?
Vous n'êtes pas tout seul. Quoi.
Votre vrai soutien
de confiance sont vos proches.
Moi, enfin, je ne sais pas si Marc et Jules, vous ne vous faites pas beaucoup critiquer, vous. Tandis que moi, je m'en suis pris plein la gueule.
Oui, puis moi, c'est différent à s'exposer que toi au foot.
Non, ouais, on est moins exposé. Sur RMC, on ne rate personne.
C'est différent.
Julien a subi des critiques, Marc a subi des critiques.
Non, mais ça fait partie du job. Sauf que moi, la récurrence, elle est différente par rapport même à Marc. Pas les critiques, mais.
Pas autant de matchs.
J'ai pas autant de matchs. Moi, c'était 3 ou 4 fois dans l'année où c'était très. Donc, par rapport à Marc et Pascal, le rôle de mon entourage est différent. Moi, ce qui était très important, quand je doutais ou quand je repense des choses comme ça, c'est mon staff. Plus que mon entourage familial, on va dire. Parce que le staff vit les mêmes choses que moi au même moment. Et donc, quand après coup, j'en reparle ou je réanalyse.
Mais en revanche, une fois que tu franchis la porte de la maison, tu ne parles plus de tout ça, tu essayes d'évacuer.
Ouais.
Ou alors ta famille sert de tampon en quelque sorte.
Non, c'est moins. C'est moins parce que c'est moins dans mon quotidien.
Ouais.
Que pour Marc ou pour Pascal.
Marc et Pascal,
tu rentres chez toi, il n'y a plus de problème FDJ ?
Si, il y a des problèmes FDJ à l'entrée, au plat principal et au dessert. forcément.
Elle est contente, Jennifer.
Non, mais ça fait pas. Enfin, ça fait partie de notre vie, oui.
On partage tout ça avec la famille,
mais aussi avec l'encadrement. C'est toujours une aventure collective. Et je pense qu'on travaille mieux quand on est avec des gens qu'on connaît et qu'on aime. Voilà. Et il faut qu'on ait
mais ça c'est un privilège,
une cohésion et une solidarité sans faille entre nous, quoi. Quand on rencontre des moments difficiles,
c'est vrai que ton équipe c'était une équipe familiale, tu bossais avec ton frère, bossais avec Martial avec ta nièce,
j'ai été coureur avec eux.
Bah oui.
On a été coureurs ensemble dans la même équipe ou dans les mêmes équipes. Donc il y avait des moments où on n'avait même pas besoin de se parler pour savoir ce que l'autre allait dire.
Ouais, c'est un bonheur, c'est un vrai plus.
Je pense
que Pascal, il n'a pas connu ça.
Ouais, Pascal,
mais
ce que dit Marc, moi, je l'ai vécu.
Si, moi, à l'OTG,
je l'ai vécu avec mon premier staff.
J'étais en place, donc j'ai pris les collaborateurs, c'était les miens.
Sur la première rencontre, je refais jouer Caroline Garcia et Christian Mladenovic ensemble. Enfin, je les prépare pour qu'elles jouent ensemble. On n'a pas eu besoin du double décisif sur cette première rencontre. Mais je me souviendrai tout le temps du premier entraînement de double où elles sont sur le terrain ensemble. Et là, moi, je prends du recul et je regarde le visage de mon staff qui, eux, avaient vécu les autres années et le clash, etc. Et là, quand au bout de 5 minutes, on a vu que tout de suite, ça cliquait sur le terrain et qu'elles étaient très fortes à l'entraînement et que ça reprenait, le visage du staff a complètement changé. Ils sont venus me voir en me disant... Ça fait 4-5 ans qu'on attend ça. C'est incroyable. Et donc, quand en un coup d'œil, tu es capable de voir une réaction positive, C'est des moments qui n'ont pas de prix là. Allez,
on referme la porte de votre vestiaire. Le poids des responsabilités de l'entraîneur. C'est bien qu'on puisse en parler parce qu'on en parle vraiment pas suffisamment de ce genre de choses. Tiens, j'ai Martial sur le WhatsApp 06 12 424 424 qui me dit c'est vrai tout ce que vous dites dans le vestiaire et dans le monde amateur également, même si les conséquences sont différentes. Mais oui, c'est pour ça aussi qu'on fait le vestiaire hein, parce que ça résonne aussi chez bien vous. Sûr. Et Jer qui me dit je n'ai jamais fait de vélo, mais entraîné par Marc Madiot, ça doit être génial.